Dans le studio marseillais de Fréquence Mistral, on accueille Virginie Aymon et Jérémy Béchon, membres du collectif Manifesterien. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous venez nous parler de votre nouvelle création, Fanma et Louise 1871, Le cri des peuples. La semaine dernière, celle qui a écrit et mis en scène cette pièce, Virginie Aymon, et celui qui a collaboré tout le long à ce travail, Jérémy Béchon, était déjà là. Vous pouvez retrouver sur notre site fréquencemistral.com ce premier volet de discussion autour des deux personnages principaux, Fanma et Louise, qui ne sont autres que deux figures de l'insurrection en France et en Algérie. C'est un spectacle justement qui relate cette histoire franco-algérienne entre la Troisième République jusqu'à nos jours, qui s'intéresse aux questions de domination raciale, sexiste, sociale. On écoute tout de suite un extrait qui nous renseignera plus sur la vie de Fanma Ensoumer.
La voilà ! La Jeanne d'Arc du Tchitchura. Fatma, sais-tu pourquoi le gouverneur te nomme aussi?
Le gouverneur, je ne connais pas. Et Jeanne d'Arc, je ne connais pas non plus.
Suffit. Le maréchal Rondeau, tu le connais très bien, souviens-toi. Le 7 avril 1854, dans l'ouest de Sebaou.
Ah, Rondeau. Ah oui, lui, je connais. On lui a mis la pâtée dans le Tchitchura. Pourtant, on n'était pas à égalité. Pas les mêmes armes, pas le même nombre, et encore moins l'expérience de la tuerie. Jeanne d'Arc, c'est un complément alors, non?
Jeanne d'Arc était une sorcière qui entendait des voix, comme toi. Et on l'a brûlée pour ça. Tu vois où je veux en venir?
Oui. Je vois que les Français, vous avez un peu peur des filles, c'est dit juge de paix.
Suffit.
Dans le studio marseillais de Fréquence Mistral, Virginie Aymon et Jérémy Béchon sont là pour parler de Fanma et Louise, 1871, Le cri des peuples. On vient d'écouter un extrait qui se situe plutôt dans les années 1857, où Fanma a alors pris la tête de l'insurrection kabyle contre l'impérialisme et est arrêté et condamné à perpétuité. On entend ici le procès de Fanma et ça commence par la Jeanne d'Arc du Tchitchura. Alors Tchitchura, c'est une chaîne montagneuse au nord de la Kabylie.
C'est ça, c'est exactement ça. On est en 57. C'est, alors évidemment, on a peu de choses hein, sur Fanma Ensoumer. C'est pour d'un point de vue dramaturgique, c'était important vu que le but c'est de faire un parallèle entre l'insurrection française et l'insurrection algérienne et ces deux figures féminines qui sont Louise Michel et Fanma Ensoumer. On a tout un procès de Louise Michel qui existe vraiment, donc ça c'était facile de trouver des pistes. Pour Fanma Ensoumer, il y en a peu. Donc au niveau dramaturgique, au niveau du spectacle, c'était bien de pouvoir faire un parallèle, parce que des procès il y en avait, c'est juste qu'il n'y a pas d'archives de ça, mais en recollant les morceaux de ce qu'on trouve, voilà. Et il y a eu, donc tu disais que Fanma Ensoumer c'était celle qui a pris la tête de l'insurrection algérienne, c'est vrai et faux en même temps dans le sens où ce qu'on appelle réellement l'insurrection algérienne c'est 1871, et donc c'est avec la révolte des Mokrani et 1871 Fanma Ensoumer était déjà morte en fait, donc elle est vraiment dans les prémices de cette révolte contre l'impérialisme français qui ravage tout, et c'est là où on parle de Randon qui suite à la bataille de 1854, c'est ce dont il parle là dans le procès, où Fanma a été avec un haut résistant de l'impérialisme français qui s'appelait le shérif Bourbagla, qu'on appelle aussi le moine combattant. Ils ont beaucoup été en lien ensemble tous les deux dans ces batailles-là. Donc il y en a eu une très importante en 1854, puis une autre en 1857. C'est là où elle est arrêtée, c'est là où commence le procès. Et effectivement, elle va se retrouver à être condamnée à être emprisonnée, en fait, à perpétuité. Donc, c'est quasiment là que commence sa mort, même si elle est réellement morte en 63, des suites de l'enfermement. Elle meurt hémiplégique, malade, parce qu'elle est vraiment dans un trou, quoi.
Et plus tard, en 1871, sa figure, elle est motrice d'une insurrection qui arrive plus tard, après sa mort. Est-ce que les Algériens se revendiquent en fait de Fadma Ensoumer ou pas, pour porter leur révolte ?
Les choses sont jamais dans un seul sens, c'est-à-dire que la plus connue, c'est celle de Mokrani en 71, mais après, dans la mémoire collective, Fadma Ensoumer est encore extrêmement présente. Tous les Algériens et Kabyles avec qui... avec qui on a discuté, connaissent ce personnage de Fadma Ensoumer. Après, elle est beaucoup moins présente des livres d'histoire et elle est beaucoup moins présente de l'historiographie officielle algérienne, qui fait la part belle, comme en France d'ailleurs, davantage aux hommes qu'aux femmes.
Et où est-ce que vous avez trouvé toutes les informations sur Fadma Ensoumer ? Comment vous avez mené votre enquête, puisque c'était compliqué d'avoir des informations ?
En lisant beaucoup de choses parce qu'on a un autre spectacle qui s'appelle Les Trois Exils d'Algérie, qui est une adaptation d'un livre de Benjamin Stora et qui est très axé sur le décret Crémieux qui naturalise les Juifs d'Algérie, qui les naturalise français. Et ce décret Crémieux, c'est 1870-1871, donc c'est vraiment pendant l'insurrection algérienne. Et en fait, ce spectacle, on l'a joué à Béjaïa, donc en Kabylie. Et au moment où on jouait ça, c'était en quelle année, Jérémy ?
C'était en 2014.
En 2014, on l'a joué lors d'un colloque qui était proposé à ce moment-là, un colloque autour de l'insurrection de 1871 en Algérie, ça se faisait pareil dans le théâtre de Bougie. Et ce colloque, en fait, après a été restitué et édité, et avant même son édition, on a pu avoir en fait tous ces documents, en fait, parce que du coup on avait participé au colloque et on a pu demander à Tassadit Yassine notamment de nous envoyer les papiers.
Une vraie recherche historique sur cette histoire-là, et vous la menez d'une façon un peu chronologique. On vient d'écouter un extrait de 1857, enfin en tout cas qui se situe en 1857. Et dans le spectacle, il y a d'autres extraits qu'on va vous dévoiler, et notamment un qui est l'appel de Mokrani. Et vous venez d'évoquer ce personnage-là. Je vous propose qu'on écoute l'extrait et ensuite vous nous parlez de ce personnage.
Moi, Mohamed El Mokrani, descendant de la dynastie des Beni Hamis, fils d'Ahmed El Mokrani, califat de la Médjana, j'ai, comme mon noble père, maintenu l'ordre sur les tribus. J'ai, sur nos terres, maintenu l'allégeance des chefs de guerre à la France. Notre sang, de l'Orient à l'Occident, s'est répandu avec celui de vos soldats sur les mêmes champs de bataille. En Cochinchine, en Crimée, au Mexique, en Italie. Tout récemment, 10 000 des nôtres sont encore morts pour la France, à Sedan, dans la guerre contre la Meuse. Aujourd'hui, j'entends jouir de ma liberté. Je veux bien mettre ma tête sous le sabre d'un soldat, mais jamais, jamais je n'accepterai d'être l'agent du gouvernement civil. Je refuse mon mandat. Je m'apprête à vous combattre.
On vient d'écouter un nouvel extrait, un deuxième extrait de la création Fadma et Louise, 1871, Le cri des peuples. Virginie Aymon et Jérémy Béchon, vous êtes là avec nous justement pour nous expliquer cet extrait où on entend le grand chef de guerre, Cheikh Mokrani, qui a jusque-là combattu pour la France et qui refuse le nouveau gouvernement civil de l'Algérie, qui le destitue de son statut de califat. Il s'apprête maintenant à combattre la France.
Là, je veux juste dire quand même que ce discours qu'on vient d'écouter, c'est un vrai discours de Mokrani. Hein. Et voilà, c'est vraiment un appel qu'il a donné suite à énormément de séries de vexations que sa famille a subies, hein, en tant qu'élite musulmane très reconnue. Et c'est vrai qu'à en arrivant ensuite avec l'instauration d'un gouvernement civil, là, c'est plus possible, surtout qu'il vient de perdre des troupes à Sedan, qui a été aussi le déclencheur finalement de la Commune de Paris. Jérémy, il voulait...
C'est la voix d'un autre comédien qu'on entend, qui est là enregistré.
Oui, c'était l'interprétation de Frank Vrijdes. Avec Tom Spectrum qui le suivait au son. Le Cheikh Mokrani, c'est quelqu'un qui est d'une extrême loyauté à la France. C'est pour ça que sa révolte va être d'autant plus violente. C'est un chef de guerre et c'est un homme de parole. Et si c'est quelqu'un qui a combattu aux côtés de la France pendant des années, ce qui a été terrible pour lui, c'est cette trahison de la loyauté, puisqu'il a jusque-là rassemblé les troupes, parce qu'il y avait des mutineries, des spahis qui refusaient d'aller combattre. Les paysans kabyles refusaient, et algériens refusaient d'être enrôlés pour aller combattre contre la Prusse, comme ils ont combattu précédemment. Ils parlent de la Cochinchine, qui est le Vietnam. Donc cette allégeance à la France extrêmement longue, extrêmement loyale, qui est bafouée, du jour à l'autre, et qui le destitue donc de son statut de califat. Et c'est cet orgueil de guerrier qui va le mener à lever la plus grande insurrection jamais vue en Algérie, puisqu'il faut savoir que ça, il va y avoir cette unification des 250 tribus qu'on va entendre avec là je vais te laisser lancer le chèque Haïdad, qui est le pouvoir religieux. Et là on a entendu jusqu'à présent le pouvoir militaire de la force algérienne, qui va être suivi par le religieux.
Et là, nous devons le combattre. Nous devons nous débarrasser de ceux qui sèment la haine et la division. Nous devons unir les 250 tribus. Combattez la France! Combattez les amis de la France! Armez-vous de foi et de courage! Et soyez prêts à mourir pour l'honneur! Avec l'aide d'Allah,
le Tout-Puissant,
et la bénédiction du prophète
Mohammed,
nous jetterons les Français à la mer comme je jette ma canne.
Un troisième extrait du spectacle Fadma et Louise 1871, Le cri des peuples, avec la voix de Frank Vrijdes et aussi de Olivier Boudran, qui sont les deux autres comédiens dans la pièce, avec Virginie Aymon, aux côtés de Virginie Aymon, qui est là dans notre studio marseillais de Fréquence Mistral. Donc c'est une transition vers une insurrection qui est portée par le côté religieux, comme vous commenciez à l'annoncer, en Algérie, qui lance l'unification de plusieurs tribus.
Oui, des 250 tribus, ce que je disais, c'est un tiers de la population algérienne à l'époque, c'est énorme. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est aussi cette notion de djihad qui est posée. Là, ça vient pas de nous, hein. C'est, encore une fois, le texte qu'on entend, c'est le texte historique apporté le Cheikh Haïdad. C'est qu'il faut savoir que en France, sous la Troisième République, les massacres qui ont été perpétrés en Algérie étaient sous le couvert d'une Troisième République, de cette laïcité, mais ce qui n'en empêchait pas moins des actes absolument terribles de spoliation de terres, d'exécution de populations, de viols. Et donc cette notion de djihad peut choquer sur le religieux, mais il faut savoir que à l'époque le religieux, et encore aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant à entendre, le religieux est politique, et qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre et considérer que parce que c'est un appel religieux, c'est un appel qui est fanatique, c'est un appel qui est un résistant. Il faut savoir que le Cheikh Haïdad, c'est un résistant à la puissance de l'impérialisme et à l'extrême violence de la colonisation. C'est intéressant, je pense, à entendre par rapport à ce qu'on entend sur le djihad sans cesse aujourd'hui. Non pas qu'il faille justifier évidemment les attentats horribles qui peuvent être perpétrés aujourd'hui, mais que cette histoire du religieux dans le monde arabo-musulman est extrêmement présent. Et on oublie ça aussi, par exemple, on est sur l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie de 1962, qu'aujourd'hui on présente comme étant émancipatrice. C'était également le poids religieux était extrêmement fort, c'est ce qui a permis cette révolte du monde arabe dans les années 54, et on voit que cette résonance de la culture musulmane, de la culture militaire, du sens de l'honneur, de la bravoure sont liées à la culture ancestrale de l'Algérie.
Et est-ce que ces deux figures, donc Mokrani qu'on a entendu en deuxième partie et Aedad en troisième partie, se connaissaient et travaillaient ensemble
À ce moment-là, ils se sont mis à travailler ensemble. Ils se connaissaient. Aedad, lui, ne faisait pas allégeance à la France. Et, alors Aedad, là, il faut celui qu'on entend, parce que Olivier Boudran, il joue Cheikh Aedad. Et ensuite, il joue aussi Aziz Aedad, c'est-à-dire son fils. C'est lui qu'on va suivre après dans la pièce. Parce qu'il faut savoir que Aedad, là, qui fait le discours, c'est un monsieur de 80 ou 82 ans. Donc, il est très vieux et c'est ses fils qui vont prendre le relais. Aedad, lui, au niveau de cette famille-là, Il est vraiment chef, donc le PPA, il est vraiment chef de la Zaouïa Ramania. Les Zaouïas, c'est des confréries religieuses qui ont un aspect politique aussi. Et celle-ci est très répandue et très, très respectée. C'est la confrérie Ramania. Et elle a, des succursale, on va dire, un peu partout là, notamment à Kabylie et au Djoudjoura. Et pourquoi je parle de la confrérie Ramania? Parce que un des autres chefs, mais à un niveau un peu inférieur, mais tout de même très important, qui faisait partie de la confrérie Ramania et qui faisait respecter ses valeurs à une certaine partie, à une grosse région en Algérie, c'était le père de Fadma Ensoumer. C'était la confrérie Ramania, où elle a commencé aussi à apprendre et à ensuite instruire d'autres jeunes du Coran et des valeurs de cette confrérie. Elle a commencé à l'apprendre là, même si c'était une fille et que normalement c'était pas du tout sa place. C'est cette confrérie, il y a un lien assez important à ce niveau-là. Après, Mokrani, lui, il va, pour justement arriver à faire un corps vraiment très grand, comme disait Jérémy, c'est un tiers de la population là qui rassemble. Lui, il est chef d'un côté, il y a Haïdad qui est chef d'un autre côté, et là, il demande à Haïdad effectivement de le rejoindre, parce qu'ils sont tous les deux finalement chefs d'une certaine quantité de tribus qui vont là en fait pouvoir se réunir. Et ce que va donner aussi en échange Mokrani, c'est que Aedad, la confrérie, les valeurs de la confrérie Ramania auront la suprématie. S'ils se joignent ensemble, il aura une suprématie religieuse à ce niveau-là. Après, pour compléter un peu ce que disait Jérémy tout à l'heure, effectivement, le djihad s'est vu à l'époque comme un effort pour aller vers Dieu. C'est pas dit comme une guerre sainte, c'est pas quelque chose de... Et la confrérie Ramania, c'est une confrérie musulmane soufie à la base, et qui prône une purification de l'âme. Donc, c'est dans ce trajet-là, en fait, que le religieux veut s'imposer. Voilà.
Il faut savoir aussi, parce que là, on a entendu les deux chefs, parce que c'est les discours historiques qu'ils ont portés, mais qu'ils étaient portés eux-mêmes par des assemblées populaires. Mmh. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement à la différence d'un tiers, par exemple, en France, d'un autre chef important qui lui n'avait une légitimité que du côté du pouvoir. Mokrani et Haïdad l'avaient par les villageois.
Aussi du côté du
Ces assemblées populaires étaient extrêmement, extrêmement importantes et elles se battaient contre l'ordre pervers des caïds soumis à l'administration. Donc dans tous ces villages berbères se sont créés comme ça une forme, certains historiens ont appelé ça une économie morale contre la crise coloniale. C'est comment le petit peuple, comment les paysans pouvaient s'organiser pour avoir un système plus juste face à la violence de la colonisation. Donc derrière le discours apparemment violent, mais moi que j'aime beaucoup de ces deux personnages parce que c'est très épique et c'est des gens qui savent qu'ils vont mourir. Enfin, on le sent dans leur discours, je trouve, de ces deux chefs qui parlent, ils savent qu'ils sont en position inférieure numériquement, mais l'injustice est tellement forte, la poussée populaire est tellement belle derrière eux, que leur sens de l'honneur ne peut pas aller ailleurs qu'au combat. On ne peut plus fuir à cet endroit-là.
Et cette organisation un peu contre du coup, l'empire colonial, elle aboutit à une insurrection en 1871, date que à Paris, à Paris, il y a eu la Commune.
Alors, c'est même un tout petit peu plus précis que ça, juste pour introduire ce que tu vas envoyer, parce que c'est le 16 mars 71 que Mokrani fait cet appel, et c'est le 18 mars, donc deux jours après, qu'on va entendre ce que tu vas envoyer, donc le déclenchement de la Commune.
On écoute ça tout de suite.
Vous venez de perdre l'un des vôtres, là, malgré mes soins. Il faut nous battre ensemble. Vous aussi, vous ne pouvez plus tenir.
Capitaine, on joue. Feu! Capitaine, on joue. Feu!
On dirait que vos soldats veulent pas tirer sur leurs frères, général. Allez, capitaine, laisse-nous nos canons. Qu'est-ce que tu vas en faire? Les offrir à Bismarck?
Essayez-nous comprendre! C'est les ordres!
Mais si on te dit de te jeter à poil dans la Seine, t'obéis aux ordres?
Capitaine! Faites reculer cette vermine!
Capitaine! Tu vas pas donner l'ordre de tirer sur nos gosses? Sur nos maris?
Capitaine! Sur ordre de tiers! Tirez! Dagan, mon général! Crosse en l'air!
Vous direz vraiment que vos soldats veulent pas tirer sur leurs frères, général?
Capitaine, tirez au moins une fois, pour l'honneur. Vous n'allez pas vous rendre à cette canaille. C'est de la canaille. Eh ben j'en suis.
Dans la vieille cité française, existe une race de fer. Dans l'âme, comme une fournaise à de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille. Pour palais, ils n'ont qu'un taudis. C'est de la canaille. Eh bien j'en suis.
Vous venez d'écouter un dernier extrait de Fadma et Louise 1871, Le cri des peuples sur Fréquence Mistral. On est avec Virginie Aymon et Jérémy Béchon. Et cet extrait se situe en 1871 à Paris avec Louise Michel, qu'on entend, la voix féminine, qu'on entend sur la butte Montmartre lors de la fameuse prise des canons où l'armée refuse de tirer sur les manifestants. On entend aussi la voix de deux autres personnages, un capitaine et un général.
Oui, c'est ça. Toujours Olivier Boudran et Franck Vraides. Donc cette prise des canons, faut imaginer Paris qui est complètement assiégé par les Prussiens. Il y a une misère terrible. Et Adolphe Thiers, là, Napoléon s'est barré en Angleterre parce que c'est la défaite. Hein, c'est la défaite de Sedan dont parlait aussi Mokrani tout à l'heure. Où ils ont participé. Et donc, c'est Adolphe Thiers qui prend les rênes du pouvoir. Et il est juste chef du pouvoir exécutif pour l'instant. Il n'est pas encore président. Il prend les rênes du pouvoir. Il veut reprendre les canons de la butte Montmartre que les citoyens avaient finalement financés pour la protection de Paris. Donc, en fait, il veut se plier aux Prussiens. Il veut l'armistice, mais du coup, ça veut dire que la France perd. Et finalement, les citoyens ne sont pas du tout d'accord avec ça. Donc, ils ne veulent pas capituler face à l'Allemagne. Donc ce que fait Thiers, là, la scène qu'on voit, c'est quand même d'envoyer une milice de nuit. Et c'est en pleine nuit que les citoyens sont réveillés, et notamment énormément de femmes. Et parmi celles qui sont à leur tête, il y a Louise Michel, mais il y en a bien d'autres, hein, et qui vont effectivement faire barricade un peu devant tous ces soldats qui sont prêts à tirer sur la foule. Il y a des tirs qui sont lancés sur la foule avant que, du coup, effectivement, ce capitaine décide de demander à ses troupes d'avoir la crosse en l'air, quoi, de stopper les tueries.
Et ce capitaine, qui est-il alors ?
Ah bah c'était un capitaine, on n'a pas... nous on l'a mis sur un capitaine, mais en fait ce sont tout simplement les soldats qui ont ordre de tirer sur les manifestants et qui ne le font pas. C'est comme aujourd'hui par exemple si les CRS refusaient de charger sur les gilets jaunes et faisaient corps avec eux. On imagine la puissance de frappe que cela ferait du jour au lendemain. Et ce qui est intéressant sur ces deux endroits, sur ces deux insurrections algériennes et parisiennes, c'est que du coup on voit que le militaire, ce qu'on appellerait le militaire ou le bras armé de l'État, que ce soit la police aujourd'hui ou l'armée avant, bien que le gouvernement ait pu envoyer l'armée dans la rue ces temps-ci aussi, s'allie avec le petit peuple. Et c'est cette alliance des classes moyennes et des classes populaires qui permet cette insurrection gigantesque. Et on voit vraiment l'analogie, parce que Mokrani aussi, c'est un chef militaire qui va s'allier aux villageois berbères. Donc... pourquoi, enfin nous c'est ce qu'on a essayé de, en faisant écouter ces extraits et en écrivant la pièce, pourquoi la Commune de Paris, qui est représentée comme le point d'orgue de l'émancipation des femmes, des travailleurs, de l'autogestion, des citoyens, de l'école gratuite laïque et obligatoire qui arrive 10 ans après. Mais si cette école gratuite laïque et obligatoire est arrivée en 1881, c'est parce que la Troisième République a eu extrêmement peur de ses communards et de ses institutrices comme Louise Michel qui allaient instruire directement les prolétaires. Et on sait très bien que l'histoire, en fonction de où on parle, ça devient une arme différente. Donc pourquoi cette insurrection parisienne, cette Commune de Paris, éclipse sans cesse les autres communes ? Donc quelle éclipse, celle de Marseille, celle de Toulouse, celle de Lyon ? On le sait, puisque la France est un pays très centraliste. Mais ce qui est assez étonnant avec la Commune de Paris, qui est extrêmement présente dans l'imaginaire marxiste, pourquoi elle ne prend pas en compte ce qui l'a précédé de quelques jours et qui est sa voisine directement, ce qui est l'insurrection algérienne. La mise en lumière de l'une semble censée éclipser l'autre. Et on pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible d'avoir une version de l'histoire, même révolutionnaire, qui soit que nationale. On voit qu'il ne peut y avoir de sens que dans une histoire connectée qui prenne en compte le monde colonial, comme il a existé, puisque Louise Michel a rencontré ensuite les insurgés kabyles et qui se sont parfois unis pour continuer de combattre avec les Kanaks au bagne de Nouvelle-Calédonie. Pourquoi cet imaginaire-là, on en est sans cesse dépossédé ?
Alors Fadma et Louise, 1871, Le cri des peuples, c'est un spectacle qui soulève des questions sur l'insurrection et sur l'histoire, qui nous en apprend plus. On en apprendra toujours plus parce que la semaine prochaine, Virginie Hémon et Jérémy Béchon reviennent. Merci d'être venus aujourd'hui, de nous avoir présenté ces différents extraits et toute l'histoire qu'il y a derrière. Alors je rappelle que ce spectacle va se jouer au Théâtre de l'Œuvre à Marseille le jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 février à 20h et mardi 8 mars à 18h30 au théâtre Jean le Bleu à Manosque. Donc ceux qui nous écoutent du 04, ceux du 13, mais même ceux d'ailleurs qui veulent se déplacer pour cet événement, vous êtes les bienvenus et rejoignez-nous encore sur les ondes de Fréquence Mistral la semaine prochaine pour toujours plus d'informations et de connaissances. Merci.
Merci. Merci.